Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je dis ça devant Marika, alors que ce qu'on fait est très, très sérieux. Mais oui, mais c'est une petite blague. Donc, merci à tous d'être là, les amis du laboratoire Migrinter, les étudiants. Bon, c'est toujours un plaisir, je répète toujours la même chose, mais c'est vrai, de vous accueillir en ce début d'année avec une première conférence. Donc, je laisse, bien sûr, Yann Sociotzucker présenter Madame Green. Lui, il le fera très, très bien pour les raisons que nous connaissons. Et bon, merci d'être tous présents. Vous êtes un public assez particulier parce qu'en fait, ce laboratoire à Poitiers est un laboratoire innovant qui est né il y a longtemps grâce à Gilda Simon, mais qui est toujours dans l'innovation. Et je trouve que les sujets qui sont abordés sont aussi des sujets qui sont en lien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec la culture scientifique, puisqu'à l'Espace Mendès France, nous organisons des conférences en partenariat avec l'école doctorale sciences humaines, économiques et sociales, et un jalon pour les sciences de l'homme. Et nous avons organisé aussi ici des soirées sur l'immigration. Donc c'est la continuité de notre intérêt pour les sciences de l'homme. Et Dieu sait si il faut s'y intéresser, bien entendu, dans les temps qui courent. Donc je laisse la parole à Yann et à notre conférencière. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous.
Bonjour à tous, rebonjour pour ceux que j'ai vus tout à l'heure en cours. Merci d'être là. Pour nos nouveaux étudiants de M1, donc je vous rappelle qu'on organise au laboratoire Migrinter des cycles de conférences sur la thématique de l'histoire de l'immigration et des luttes contre les discriminations. Et pour inaugurer ce cycle de cette nouvelle année, Nancy Green, qui est donc ici, va venir nous présenter des migrations d'élite. Alors Nancy, c'est plutôt, on va faire l'inverse, je te présente nos étudiants parce que je crois qu'ils te connaissent déjà. J'ai, en tout cas ceux qui étaient en M2 l'année dernière, en M1 l'année dernière avec moi. Tu peux imaginer les liens intellectuels qui me lient à toi puisque tu étais ma directrice de thèse et c'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Je suis même très ému, honnêtement, de t'avoir là. Pour les étudiants de M1 qui ne connaissent pas forcément encore le travail de Nancy, pour te présenter en deux mots, de Chicago, tu es venu. Tu as travaillé d'abord sur l'histoire de l'immigration juive au tournant du XXe siècle, avec l'ouvrage sur le Shtetl de Paris qui est paru. Ensuite, tu es aujourd'hui directrice d'études à l'École des hautes études de sciences sociales. Et tu as travaillé sur un ouvrage que les étudiants de M1 disséqueront cette année l'ouvrage « Repenser les migrations », bien évidemment. Et aujourd'hui, tu vas nous présenter un nouvel axe de ton travail qui est « Porte sur l'immigration des élites ». Je te laisse la parole et je te redis le grand plaisir de t'avoir.
Merci, le plaisir aussi est pour moi. Je suis très fière de Yann et très content qu'il est là. Il est aussi très content d'être migrinter, alors tout va bien. Alors, j'aimerais vous parler donc d'effectivement une nouvelle perspective sur l'histoire des migrations, une perspective qu'on n'aborde pas très souvent, surtout en histoire, sur peut-être, vous me diriez, ceux qui sont en géographie. Les sociologues, les anthropologues ont peut-être travaillé plus récemment, mais je partirai d'un projet de recherche sur lequel je travaille actuellement pour aborder cette question plus générale des migrations d'élite et poser la question, est-ce que c'est une nouvelle pratique, un nouveau concept, ancienne pratique peut-être, pour poser la question de comment en fait on peut le désigner, parce que je ne suis pas sûre même que j'ai donné le bon titre à la conférence, mais ça c'est des problèmes de langue. Et puis pour terminer sur effectivement comment en abordant les élites, on peut revenir sur les questions de classe sociale au sein de l'étude de toutes les migrations. En fait, le début de mon projet partait d'un travail que je fais actuellement, qui est un projet sur les Américains à Paris. Alors, j'en suis, mais je m'intéresse de manière historique à la première partie du XXe siècle, à ce que j'appelle les autres Américains à Paris, parce qu'en fait, il y a une grande littérature sur Gertrude Stein, dont les tableaux sont actuellement en présentation au Grand Palais, sur les écrivains, sur les artistes, sur les musiciens. Mais il y a beaucoup moins sur ce qui, en fait, composait la grande partie numérique des Américains à Paris. C'est des hommes d'affaires, c'est ceux qui sont venus pour vendre l'Amérique, pour vendre leurs produits. Et donc, il y a toute une autre histoire d'une colonie américaine à Paris dont on parle très peu, bien qu'on voit aujourd'hui les résultats de ce qu'ils ont construit depuis le 19e siècle, deux grandes églises, une bibliothèque, l'hôpital américain. Donc, c'est une autre histoire, d'un autre type de migration qui m'intéresse et que j'intègre dans trois questions historiographiques. Une qui vous intéresse peut-être moins, mais qui fait partie d'une grande discussion aux États-Unis aujourd'hui, c'est sur l'internationalisation nécessaire de l'histoire américaine. À savoir que l'histoire américaine est souvent un peu isolationniste dans ses perspectives. Il est concerné sur le continent américain. Mais depuis une vingtaine d'années maintenant, 10-20 ans, beaucoup d'historiens considèrent qu'il faut internationaliser l'histoire américaine et tourner vers l'extérieur plus, en regardant des archives ailleurs, en regardant pas juste une histoire diplomatique avec d'autres pays, mais de voir comment d'autres formes de l'Amérique ont voyagé et de le faire dans une perspective à la fois plus approfondie et plus critique. Et pour ma part, de proposer une histoire des Américains à l'étranger comme un groupe social, en utilisant Paris comme cas, est une façon d'internationaliser aussi l'histoire américaine. Mais deuxièmement, je veux que ce travail s'intègre aussi dans une historiographie française et des débats sur l'américanisation. Puisque on peut, et il y a eu beaucoup qui est écrit sur l'américanisation et surtout pour la période après la Deuxième Guerre mondiale, mais d'une part, il y a toute une histoire de sa préhistoire et de comment ces hommes d'affaires sont venus s'installer et apportant des méthodes, des produits, etc. Donc, dans quelle mesure on peut se demander, est-ce que des individus apportent dans leur bagage, pas seulement leurs produits, leurs biens, mais aussi une forme d'américanisation par leur présence? Qu'est-ce que c'est pour un groupe, finalement, parce que je vais aussi en parler comme un groupe, quel est-il de, est-ce qu'ils voulaient américaniser la France? Est-ce que c'était un peu malgré eux, ou c'était ce qui y représentait malgré eux, et dans quelle mesure ils voulaient vendre l'américanisation à la France, même dans la période avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça pose une question plus générale pour toutes les migrations. Et c'est ça ce qui constamment me revient, même en travaillant sur ce projet particulier, c'est-à-dire que comment est-ce que les questions que je peux poser sur ce groupe, qu'on va en débattre, peut-être ne vous paraît pas comme des immigrés typiques, mais dans quelle mesure les questions qu'on peut leur poser nous amènent à aussi poser des questions plus générales sur toutes les migrations. Donc, dans quelle mesure est-ce que les éléments que les gens apportent avec eux, de tous les groupes, vont avoir aussi un impact sur le pays dans lequel ils s'installent? Évidemment, dans le cas des Américains qui apportent des entreprises, c'est très lourd, mais on peut poser la question pour les restaurants, pour d'autres formes d'apport culturel ou économique des immigrés en général. Donc, troisième question historiographique, c'est les questions qui nous préoccupent peut-être tous ici, c'est l'histoire de l'immigration. Donc, c'est-à-dire dans tous les différents... Et l'immigration, c'est un sujet multiple. On peut aborder par une variété de regards, l'État, les individus, les groupes, de manière comparative, de regarder par des pays d'origine, les pays d'installation, tous les anciens débats sur assimilation, intégration, ensuite des questions sur... Est-ce que les gens gardent une ethnicité ou non, à travers combien d'années, combien de générations? Ici, je voudrais poser la question, est-ce que les gens riches peuvent être des immigrés? Est-ce que les expats, je reviendrai sur la terminologie, est-ce qu'on peut les considérer, les étudier comme des immigrés? Vous pourriez, à la fin de la conférence, me dire non, mais je vais essayer de vous convaincre que non seulement ma réponse en tous les cas est oui, mais que ça peut apporter des questions, que ça peut poser des questions sur d'autres groupes et d'autres catégories sociales de l'immigration. Alors, les migrations d'élite ou des élites, est-ce que c'est... On en parle en fait comme une nouveauté. Et donc, pour moi, en tant qu'historienne, ça me pose toujours des questions de ce qu'on va ériger comme nouveauté absolue. Ils vont être un peu le symbole, surtout ces gens de type d'hommes d'affaires d'aujourd'hui qui voyagent partout, qui ont de multiples passeports, qui sont considérés comme vraiment les artisans de la globalisation. On va beaucoup parler comme quelque chose de fondamentalement nouveau, nouvel. Et il y a un travail d'un certain nombre d'anthropologues ou de sociologues, c'est une tendance croissante, pour voir comment ces nouvelles élites transnationales se sont multipliées. Je pense notamment aux travaux de Anne-Catherine Wagner, qui était une des premières en France de parler de ces nouvelles élites de la mondialisation, et elle a étudié leur quartier à Paris, comment ils ont, où ils vivent, les institutions qu'ils créent, les écoles, c'est-à-dire les écoles internationales. Donc tout ça, mais sous le signe de la nouveauté. Tarius aussi, Alain Tarius a également travaillé sur ces hommes d'affaires qui voyagent beaucoup pour aussi critiquer, en se posant la question, est-ce que c'était si bien, si formidable que ça, d'être tout le temps dans les trains, d'être tout le temps entre deux portes, entre deux lieux. Mais l'idée qu'il y a, néanmoins, c'est quelque chose de notre contemporanéité immédiate, qu'il y a qui ont leurs propres espaces réservés, que ce soit d'ailleurs les classes premières dans les trains, ou dans les hôtels, ou dans les quartiers, où ils peuvent s'installer dans les grandes villes mondiale, comme dirait Saskia Sassen. Donc, dans ce discours sur la globalisation, ces nouvelles élites-là sont présentées par des sociologues et des anthropologues comme quelque chose de fondamentalement nouveau. Alors, je pense pour ma part que quand on commence à réfléchir sur cette catégorie, on va d'abord tout de suite voir qu'il y a différentes formes de ces élites migrateurs dans le temps, dans le passé, comme aujourd'hui. Et on peut interroger même des colons et l'histoire coloniale pour voir ceux qui sont allés pour investir des nouveaux lieux des colonies, dans quelle mesure c'était aussi une forme d'élite, parfois une petite bourgeoisie, parfois plus, qui se sont installés. Mais on peut remonter jusqu'au Moyen-Âge avec différentes formes de marchands, aussi des étudiants, aussi des intellectuels, ce n'était pas le mot de l'époque, qui voyageaient aussi dans l'espace européen ou à travers, ou les marchands à travers les océans. Donc il y a une longue histoire qui n'est pas reconnue en tant que telle, mais que je pense nous oblige de revoir la question de nouveauté. On a parfois, quand je lis peut-être trop la littérature américaine, on a l'impression que les hommes d'affaires internationales, américains ou américanisés de ces derniers temps ont inventé un nouveau monde, mais je pense qu'il faut être un peu plus modeste et interroger l'histoire pour voir dans quelle mesure cette nouveauté est réelle ou qu'est-ce qui a changé sinon. Ce qui m'amuse en tant qu'historienne, c'est quand je trouve des citations des personnes dans le passé qui parlent, eux, de leur nouveauté. Donc, il y a c'était à la fois un diplomate et un avocat américain à la fin du 19e siècle, qui parlait déjà de la nouveauté croissante des hommes d'affaires qui voyageaient partout, le phénomène d'une expansion économique américaine, il disait, avait déjà mis en route de vastes armées de voyageurs qui, à un degré jamais vu auparavant, vont jusqu'aux coins les plus reculés des pays étrangers. Donc là, c'est vers 1900, donc on a déjà une image de cette nouveauté. Ça va poser des questions pour le droit, et notamment pour le droit international, sur qui appartient à quel pays et comment protéger ses citoyens quand ils sont à l'étranger. Mais cette notion d'une nouvelle classe de citoyens voyageant ou résidant à l'étranger donc était déjà perçue. L'autre citation, mais je l'ai recherchée... tout à l'heure, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est une citation de Rockefeller qui dit que... Oh, il dit, mais le télégraphe, il a dit, mais c'est incroyable. Maintenant, tout va tellement vite. Et il faut qu'on répond si vite que c'est franchement énervant. Vous me suivez mes propres pratiques. Alors, je pense que cette question donc, soulève des questions sur la nouveauté de ces groupes, mais aussi de la globalisation plus généralement et de comment on va les définir. Donc, si la migration des élites n'est peut-être pas si neuve que l'on imagine aujourd'hui, elle permet toutefois de reposer la question de rapport entre migration et classe sociale. Le champ de l'histoire sociale de l'immigration s'est développé aux États-Unis comme en France à partir des années 1970, par là, en conjonction avec l'histoire de la classe ouvrière, avec l'histoire ouvrière. Et donc, on a beaucoup, et pour des raisons tout à fait évidentes, on a souvent travaillé sur les migrants, les travailleurs immigrés, la masse des travailleurs immigrés qui étaient des travailleurs ou manuels ou les gens pauvres. Je pousse parfois la provocation pour parler des hommes d'affaires comme des travailleurs aussi, parce qu'ils travaillent. Hein, mais c'est vrai que notre image de ce que c'est, même l'histoire de l'immigration, il est étroitement lié à cette image et aussi au fait que l'historiographie du sujet a émergé de pair avec l'histoire ouvrière des années 60-70. Mais cette histoire de l'immigration et des immigrés comme travailleurs masculins d'ailleurs, s'est ouvert lentement vers le questionnement d'autres groupes et d'autres types de migrants, que ce soit des femmes, mais aussi à des questions sur les petits ateliers, les boutiques, d'autres formes de travail que juste le travail dans les usines ou dans les champs. Et donc, on a pu décrire dans les études sur les différents groupes déjà une variété de personnes au sein des immigrations qui posent la question de quelle classe sociale on parle et quels sont les gens au sein des groupes immigrés. Puisqu'on a des notaires, on a des petits notables, on a des présidents d'associations qui deviennent des notables dans les communautés. On a les gens qui sont propriétaires, petits propriétaires d'un atelier ou d'une boutique, même si c'est toujours très précaire. Et d'ailleurs, déjà, quand il avait fait son travail sur les Italiens et en France, enfin les Italiens et la France, les Français et les Italiens, Pierre Mizza avait déjà une petite partie de son travail qui était vaste et longue. Je suis à la note, à la page 255, mais à la note 708-710 par là. Il décrit la structure sociale de la colonie italienne à Paris ou en France. Il dit que ça ne concerne que peut-être 1% de cette colonie, mais il décrit les chefs d'industrie, c'est au début du XXe siècle, des chefs d'industrie, des banquiers, des professions libérales, ceux qui à Nice sont des propriétaires d'immeubles ou de fonds ruraux. Alors, donc, l'existence d'une fortune italienne en France va de pair existe en même temps, en parallèle avec la masse de travailleurs italiens qui sont venus, qui travaillent dans les usines, dans les mines, etc. Et donc, il y a aussi une noblesse italienne, il y a des membres du corps diplomatique, toutes sortes de personnages, de personnes et personnages sur lesquels il faut réfléchir sur leur place dans une histoire de l'immigration. Et il parle aussi déjà d'une bourgeoisie d'affaires, des industriels, de gros bijoutiers joailliers, les professions libérales, etc. Alors certes, les autorités italiennes déploraient l'absence d'un véritable groupe dirigeant pour maintenir en place ce qu'ils appelaient une colonie italienne, comme on va parler d'une colonie américaine, une colonie britannique. C'était le terme qui était utilisé pour les immigrés dans les pays. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a différents exemples, et je pense qu'on n'a pas mis l'accent là-dessus jusqu'à présent, mais que ça nous pose des questions, je pense, intéressantes pour l'histoire de l'immigration. Mais la migration des élites, on peut le penser aussi en conjonction avec une différenciation au sein des groupes immigrés en situation d'immigration. Donc on peut avoir l'émergence des élites au sein des groupes immigrés, qui ce n'est pas la même chose que la migration des élites. Donc c'est là où je ne suis pas sûre si j'ai donné le bon titre, c'est peut-être plutôt la migration des élites. Enfin, j'ai des doutes toujours en français. Voilà. Il y a aussi, donc juste pour terminer là-dessus, entrepreneurs, sportifs, scientifiques, étudiants. Il y a des gens qui travaillent sur les étudiants et la migration estudiantine. Il y avait un ouvrage au moins sur les exilés du savoir, les migrations scientifiques internationales, de Charles Allary. Donc on a des travaux spécifiques sur différentes formes de ce qu'on peut appeler cette une migration des élites. Et donc je pense que les Américains, les hommes d'affaires américains peuvent entrer dedans. Et il ne s'agit pas pour moi de remplacer une histoire de l'immigration ouvrière par celle d'une histoire des seules élites, mais à la fois d'ajouter à ce que nous avons fait jusqu'à présent, à ce que nous continuons à faire avec bonne raison pour étudier les migrations de masse dans toute leur variété, et aussi d'utiliser cette question pour aussi pousser nos questions sur les migrations de masse. Alors, il faut poser la question quand même des mots et comment à la fois nommer ces migrations, mais qui, encore une fois, ça nous fait interroger sur notre usage des mots jusqu'à présent. Parce que si c'était une migration de notre type, qui travaille des travailleurs de notre type, que ce soit des professions ou des services, plutôt que des travailleurs de l'industrie, des industriels, comme j'ai dit, qui travaillent quand même, les mots nous limitent. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne les a pas, jusqu'à présent, véritablement inclus dans le champ des études migratoires. En France surtout, j'apprends tous les jours, mais je le sais depuis longtemps, le terme immigré est presque une injure. Je voulais intituler un petit ouvrage sur l'immigration aux États-Unis, les immigrés américains, les immigrés en Amérique, et on m'a interdit le terme. Et on a fini par l'appeler les émigrants. Ce qui était contraire à l'idée même de l'ouvrage, qui était sur l'installation des immigrés européennes aux États-Unis. Les émigrants, ça part de leur départ, et je reviendrai et d'ailleurs vers les géographes pour poser une question sur ces termes immigration, immigrants, immigrés, immigrants et immigrés. Chaque mot, certains ont des termes, des connaissances ou les sens historiques lourds. Émigrés, c'est utilisé en France pour parler souvent de la plupart du temps sur les émigrés de la Révolution française. Donc un usage d'un mot qu'il a un peu capté pour un usage spécifique historique. Mais il y a des débats au sein des historiens, sans doute aussi avec d'autres disciplines, pour essayer de savoir quelle est la meilleure terminologie. Immigrés souffrent d'un usage grand public, capté par l'extrême droite d'ailleurs, qui a donné un sens négatif à ce terme. Donc les historiens, certains veulent utiliser maintenant immigrants, que moi j'ai toujours considéré comme un anglicisme, donc je l'avais évité. En anglais, on n'a pas le choix, immigrant. C'est le mot. Il n'y a pas un choix entre immigré et immigrant. Immigrant, c'est le seul mot. Enfin, il y a d'autres mots, mais avec cette racine. Donc, que faire de cette variété de terminologie dont certains ont différents sens, comportent différents sens. Donc, immigré, certains veulent le remplacer par immigrant en prétendant que l'un est plutôt que immigré, c'est plutôt un processus en parlant des questions de processus. Pour moi, immigrant, c'est effectivement un processus, mais un processus qui n'est pas justement, qui ne permet pas l'installation. Immigré, pour moi, ça montre que les gens viennent et ils s'installent. En tous les cas, c'est un débat qui est ouvert. Le problème pour moi et pour ce soir, c'est qu'en tous les états de cause, on ne pense pas aux élites dans le mot immigré. Alors ça, c'est ou même dans le mot immigrant. Pourquoi ? Encore une fois, puisque la façon dont l'usage des termes a été véhiculé à la fois dans les sens communs et aussi la façon dont l'historiographie, les chercheurs ont utilisé les termes, ont fait que c'est une... quand on pense des hommes d'affaires américains, on ne pense jamais immigrés ni immigrants, et eux non plus d'ailleurs. Donc je peux revenir sur la façon dont les gens aussi, ils se pensent et dans quelle catégorie ils se trouvent. Donc problème de définition, et il me semble que donc, quand on pense sur, on réfléchit sur des immigrants riches, force et ça nous pousse en fait donc à poser la question de comment on utilise dans la recherche sur dans le champ migratoire comment on utilise les termes immigrés immigrants et comment en fait ce terme comporte déjà deux implicites, un qui est une implicite de classe ouvrière, classe travailleuse, et une implicite de immobilité. Donc, on imagine quand même que les immigrés s'installent. On va voir, pour les hommes d'affaires américains, ils s'installent quand même, mais ils sont très mobiles. Mais la question de leur classe sociale, évidemment, est autre que le sens de la terminologie que nous utilisons pour la plupart. Donc, est-ce que les Américains à l'étranger, qui est notre formule d'ailleurs, qui évite la question de les appeler immigrés ou non, est-ce qu'ils peuvent être inclus dans une histoire plus large de la mobilité ou de l'immigration ? Voilà encore un mot, mobilité, qui peut être... qui est certes plus large et qu'on utilise aussi parfois pour les désigner. Alors, eux-mêmes, ils ont débattu la question de leur mobilité et de leur permanence en France. Ils s'appelaient une colonie, jusqu'à ce que le mot colonie a été mis au banc pour parler des immigrés dans les sociétés où ils se sont immigrés. Mais il y avait depuis le 19e siècle une discussion, qu'est-ce qui faisait un Américain résident de Paris au lieu de juste un touriste, parce que c'était ça l'autre distinction qui était importante au point de vue de mobilité, au point de vue de durée, d'installation. Et certaines disaient que si on restait 5 ou 10 ans, ça suffisait pour devenir un membre de la résidente de la communauté. En tous les cas, ils ont créé des institutions, comme j'ai évoqué tout à l'heure, les églises, ils se sont ancrés dans certains quartiers, ils se regroupaient autour de leur langue, dans certains secteurs économiques, il se trouve que c'était des secteurs économiques plutôt haut de gamme, mais en créant des institutions, ils créent ce que d'habitude pour d'autres groupes d'immigrés, on voit comme des signes d'une immigration et d'une installation. Si on définit l'immigration et les immigrés ou des groupes d'immigrés par les institutions qu'ils créent, alors là, ils remplissent la catégorie sans aucun problème. Mais eux-mêmes, ils reconnaissaient que la communauté, entre guillemets, était composée d'une partie permanente et une partie flottante. Donc, il parlait aussi d'une mobilité qui n'était pas seulement la mobilité des touristes, mais même ceux qui étaient installés, voyageaient beaucoup. Ils avaient des maisons, bon, il faut dire, c'est pas, ils ne sont pas à plaindre. Ils avaient souvent des maisons de campagne ou sur la Côte d'Azur ou dans la région parisienne, avec des allers-retours fréquents qui allaient avec leur classe sociale, et ils retournaient souvent aux États-Unis, ils faisaient des allers-retours. À l'époque, vous savez, les bateaux à vapeur étaient aussi considérés comme une rapidité considérable par rapport à la voile. Donc, ça avait coupé en quatre le temps pour traverser l'Atlantique, et donc à la fin du 19e, c'était aussi un signe, une nouveauté par rapport au temps passé pour traverser l'Atlantique, qui était considérée comme très importante. Comment ils s'appellent? Souvent, on va parler des Américains à l'étranger, Overseas Americans, c'est une façon de parler de ce groupe qui parfois se regroupe. Il y a aujourd'hui une association des résidents américains à l'étranger qui va croissant depuis 20-30 ans. Et les chiffres, je ne vais pas vous cacher, on estime que peut-être quand même 40 000 le nombre d'Américains à Paris dans l'entre-deux-guerres à son apogée de ce groupe, c'est-à-dire avant le krach de la bourse en 29. Après, il y aura un déclin et puis un autre déclin avec le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, les chiffres vont aller effectivement en augmentation considérable après la Deuxième Guerre avec le plan Marshall, un autre apport spécifique et là, pour le coup, encore plus dirigiste qui est venu après la Deuxième Guerre. Donc, voici pour la première moitié du XXe siècle, on peut voir les prémices de cette croissance, mais qui va vraiment avoir une courbe ascendante depuis les années 50-60. Ils s'appellent comment? Ils s'appellent aussi, bon, ils s'appelaient colonies, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ils s'appellent aussi expatriés. Et ce terme, curieusement, ou finalement, oui, c'est curieux, ce terme expatriation, expatriates et expats, a eu une longue histoire aux États-Unis. Le terme, au début, veut dire quelqu'un qui perd sa nationalité, quelqu'un qui est expatriote, mais qui surtout n'est plus citoyen de l'origine. Aujourd'hui, c'est plutôt un terme favorable de ceux qui ont qui bénéficient des éléments fiscaux, par exemple, favorables. Donc, il y a une autre signification aujourd'hui des expats, qui est plutôt une classe plutôt favorisée, une classe sociale qui a des avantages. Certaines parlent de l'immigration caviar, ou bien des immigrés fortunés. Il y a toute une série d'autres termes qui sont parfois utilisés, tous d'ailleurs pour éviter la terminologie d'immigrés ou immigrants. Donc on peut parler des migrants hautement qualifiés, internationaux, les migrants de carrière. C'est un terme qui va être utilisé dans un congrès où je vais en novembre. Donc, on parle de « career migration », mais les « careers », les carrières, tout le monde peut en avoir, me semble-t-il. Mais c'est pour essayer de parler de ceux qui sont qualifiés, mais qualifiés, hautement qualifiés, des migrations des gens hautement qualifiés. Une migration professionnelle, une migration managériale. Voilà, et ou aussi tout simplement les professionnels mobiles, professionals, c'est des libres, les professions libérales mobiles. Voilà, donc on a une série de termes utilisés. Expat est le terme un peu le plus fréquent. Mais encore une fois, je pense que si une des questions pourquoi il y a une division de langage pour parler effectivement de deux classes sociales différentes dans la mobilité. Donc on va parler des immigrés, immigrants pour les pauvres et expats pour les riches. Pourquoi pas? Mais ça nous fait réfléchir sur le sens de l'immigration. Et il me semble que puisque nous avons en fait donné un sens qui était plus large que juste la question de richesse, que tous les autres attributs de l'immigration que nous avons pu étudier, la construction des communautés, la construction, la structuration des gens en migration, que nous avons des choses qui sont similaires, quoi qu'il soit par rapport à la richesse ou par rapport aux classes sociales. Donc, qu'en est-il des implicites dans ce que nous faisons? Qui est tout à fait justifié, puisque, encore une fois, je reste toujours écuménique au point de vue historiographique, et ce n'est pas pour remplacer un travail sur des immigrés, des travailleurs immigrés par des travailleurs des professions libérales, mais de voir en quoi il y a des similarités et non. Parce que c'est là où on peut poser la question, quel est le problème pour l'immigration? Est-ce que c'est peut-être finalement aussi une question de classe? Alors, est-ce que, si je pose la question, est-ce que les migrants qui sont riches devraient ou non intégrer ou être intégrés dans les études sur les migrations? Évidemment, je vais dire pourquoi pas. Mais je pense que ça nous force à poser la question de la classe dans ces études et la façon dont nous-mêmes posons les questions à, de toutes sortes, que ce soit la structuration des communautés, que ce soit les questions d'assimilation-intégration, terme plus utilisé aujourd'hui, que ce soit des questions culturelles par rapport aux immigrations. Puisque l'autre, peut-être non dit, c'est que bien qu'il y a eu, il y a dans toutes les immigrations, il y a des élites, il y a des diplomates, il y a des hommes d'affaires, il y a ceux qui, dans leur propre sphère, se sont enrichis, qui représentent une espèce de notabilité du groupe. Qu'est-ce qui fait problème avec ce mot immigré et qu'est-ce qui fait problème avec l'image et là je veux parler plus de du sens commun. Si le mot immigration pose problème et si les immigrés posent problème, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a deux choses dedans. Il y a la question de classe sociale, il y a aussi la question des origines différentes. Alors, quand on traite, et ça vous me l'accorderez facilement, quand on traite de ces nouvelles élites de la mondialisation, peut-être il y a deux types dedans. Encore, on peut le poser la question historiquement. Il y a ceux qui sont peut-être les plus proches ou s'y considérés comme les plus proches, culturellement parlant, des sociétés dans lesquelles ils s'intègrent. Donc, les Américains en France, vous me direz, ça ne devrait pas poser un grand problème. Pourtant, il y a un anti-américanisme qui, parfois, est de bon aloi et qui pointe les différences d'une manière parfois même un peu même virulente. Ils sont mal élevés, enfin, ils sont considérés comme mal élevés, pas assez chevaleresques, ils n'ont pas de bonnes manières, enfin, il y a toutes sortes de stéréotypes croisés, d'ailleurs, qu'on peut analyser. Mais donc, si on pose cette question, donc, oh, il peut avoir de nos jours, et encore une fois, je suis peut-être aussi en train de parler contre une historiographie contemporaine pour essayer de poser des questions plus historiques. Il peut y avoir ceux qui sont considérés comme être semblables et d'autres qui peut-être viennent d'ailleurs, mais qui se sont globalisés, internationalisés. Tarius pose la question aussi de cette internationalisation, soi-disant, d'une certaine couche sociale des hommes d'affaires, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vision que ces migrants-là, ces personnes mobiles-là, ne poseraient pas problème parce qu'ils ont assumé une certaine identité bourgeoise ou le vocabulaire que vous voulez, mais qu'il y a une homogénéisation d'un certain type de pratique qui, en principe, devrait rendre cette globalisation dont on parle tant sans problème. Alors, puisque le cœur de mes propres recherches, en fait, partait d'un travail que j'ai fait dans un cabinet juridique d'origine canadienne ou américaine internationale à Paris. Et la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que l'international au sein de ces institutions, de ces types d'organisations, marche si bien que ça? Il y a une certaine rhétorique de comment cette globalisation, cette internationalisation crée une harmonisation de pratiques et d'interactions. Et pourtant, en faisant des entretiens et en voyant des pratiques, on voit que les caractères nationaux, les différences nationales comptent encore et sont encore présentes, même si le discours veut le nier. Alors, si donc il y a présomption que parmi les expats qu'il y a une espèce de homogénéisation et que la culture de cette élite ne poserait pas problème pour les pays dans lesquels ils travaille et où il s'insère. Je pense que c'est néanmoins une question à poser et on peut voir aussi différentes formes de rejet, parfois surtout, encore une fois, de l'extrême droite, mais qui vont faire aussi un rejet de ces riches étrangères, riches étrangers et étrangères, on peut revenir sur les hommes et les femmes, et donc, on peut voir que est-ce que c'est seulement une. Quelle est la part de classe sociale, quelle est la part d'origine étrangère dans les différentes formes de rejet vis-à-vis des immigrés, des étrangers sur lesquels nous travaillons tous. Donc, ces questions de classe sociale, je pense que en travaillant sur, ou en voulant travailler sur une migration des élites, je voudrais que ça, que d'une part, qu'on réfléchisse plus en avant sur les différenciations de classe entre et au sein des groupes migratoires. On peut effectivement dire, bon, tous les Américains sont riches et d'autres groupes sont pauvres. Mais on peut aussi poser la question de l'émergence d'une différenciation une différenciation des classes sociales au sein des groupes dans leur propre installation, dans leur propre migration. Quels sont ceux qui réussissent et qui peuvent ensuite devenir des petits notables au sein des migrations? Et quels sont ceux qui viennent avec un statut déjà de petits banquiers, de petits industriels ou petits propriétaires dans leur bagage déjà? Ça pose la question finalement de quelle est... quelle différence l'argent, quelle différence fait l'argent? Si on parle de l'immigration, évidemment, c'est plus facile, on peut le concevoir, d'être riche que d'être pauvre dans toutes circonstances, y compris dans la circonstance de l'immigration. Parce que parfois, on me demande, mais alors, si cette étude sur une migration d'élite... Ben, quel est l'intérêt d'écrire une communauté, pourquoi pas, d'écrire des questions d'identité, est-ce qu'ils se sentaient américains ou non, est-ce qu'on les percevait comme américains ou non, dans quelle mesure ils se sont bien installés ou non, etc. Mais on peut aussi voir que qu'est-ce qu'ils peuvent faire en tant que même immigrés ou étrangers, que d'autres ne peuvent pas faire, et notamment créer de grands édifices. Toute l'histoire d'ailleurs de la création de l'église américaine, de la cathédrale américaine, il y a deux structures différentes, l'un est Quai d'Orsay, si vous voyez ce que c'est, un autre qui est avenue Georges V. Tous les deux, ils ont bien voulu faire comme en France, et ils ont fait des structures néo-gothiques à la fin du 19e siècle, et même en 1934 pour le deuxième, pour montrer à la fois, mais il fallait avoir les fonds pour le faire, donc ils ont fait beaucoup de fundraising, pas seulement auprès des Américains à Paris, en France, mais aussi aux États-Unis, dans leurs églises respectives, l'hôpital américain, la bibliothèque américaine, donc, et plus tard, mais c'était après la guerre quand c'est devenu, il a commencé dans l'entre-deux-guerres, le centre pour les artistes et étudiants, tout ça, c'était grâce aux moyens qu'avait la communauté pour construire des édifices, construire des institutions. Donc, c'est vrai que là, ça aide si on a des moyens pour le faire. D'autant plus que, contrairement à peut-être d'autres groupes qui ont parfois l'aide publique, l'aide de leur gouvernement pour créer certaines institutions des étrangers à Paris, la communauté américaine a plus souvent eu tendance à soulever des fonds chez des particuliers, chez des riches, des richissimes qui pouvaient les aider, des Américains en France ou aux États-Unis. Cette richesse, ces possibilités matérielles certainement permettaient de créer des formes visibles d'une communauté que peut-être d'autres ne peuvent pas faire. Et donc il y a une vraie concrétisation d'ailleurs d'une communauté dans le fait qu'elle puisse construire des immeubles importants, grands, impressionnants. Ils ont débattu, est-ce qu'on fait, quel type de flèche on met au-dessus de l'église. Ils n'avaient pas tout à fait assez d'argent pour faire une grande beffroi peut-être ou non flèche, clocher. Et puis ils ont dit, mais de toute façon, un clocher comme ça en pointe. Et puis quelqu'un dit, oh, mais de toute façon, Notre-Dame n'en a pas, donc peut-être on peut s'en passer. Ils ont fini par trouver des moyens pour le faire. Donc tous les débats et les formes pour soulever des fonds qui montraient aussi la force matérielle de cette communauté dans sa structuration. Mais est-ce que, et c'est une question que je me pose, je pense que pour les Américains à Paris, leur intégration finalement n'était pas, il y a, et je suis d'ailleurs en train d'écrire tout un chapitre après d'autres sur l'anti-américanisme, ou une partie d'un chapitre sur l'anti-américanisme qui montre que ce n'était pas toujours facile, qu'il y avait, dans tous les cas, si ce n'était pas contre ces Américains-là à Paris, il y avait une ambiance dans l'entre-deux-guerres où il y avait notamment une mise en puissance des écrits contre l'Amérique, contre sa manque de spiritualité et que son héroïsation de tout ce qui est matériel. Donc il y avait toutes les formes de critique de l'Amérique, des États-Unis, qui étaient prévalents, qui étaient beaucoup lus à Paris. Qui s'appelle Scène de la vie future de Georges Duhamel. A été un best-seller. Il y a eu des éditions de la première année, ils ont eu 150 éditions ou impressions différentes, où il décrit son voyage aux États-Unis. Ce n'était pas contre les Américains à Paris, mais c'est l'ambiance dans laquelle les Américains à Paris vivaient. C'est qu'il y avait un grand succès de cet ouvrage où il décrit, et c'est avec. Moi, je l'ai trouvé drôle, en fait. Il décrit son voyage aux États-Unis. Il a fait pendant plusieurs semaines, peut-être quelques mois, un grand voyage où il est allé visiter toutes un certain nombre de villes et des installations. Il était complètement dégoûté par les abattoirs à Chicago. Et les gens avec qui il parlait, il essayait de faire un peu des critiques et manifestement, il ne comprenait pas. Donc il y a son ton ironique et beaucoup de dialogues quand il discute avec les gens qu'il rencontre, où lui, il était ébloui dans le mauvais sens par tout ce qui concerne les films, les grands cinémas, les automobiles, la façon dont les gens conduisaient, ce que les gens lui disaient par rapport à ce qu'il leur pratique. Et c'était un grand succès, ce livre. Donc on a un certain anti-américanisme qui est là, qui est malgré le fait que ces Américains à Paris ils s'intègrent, ils sont là, ils sont individuellement, ils sont pas en but à des attaques personnelles à ce que je trouve, au moins dans les sources que j'ai eues. Mais il y a une ambiance qui peut être inquiétante pour eux. Et je pense que ça nous fait réfléchir sur des questions, des limites de l'assimilation, de l'intégration, même pour les plus favorisés. C'est-à-dire qu'ils ont, et même quand ils ont pu se marier avec l'aristocratie française, il y a un ouvrage qui a été réédité, ce qui est très intéressant, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle « L'art d'être pauvre » de Bonnie de Castellane, qui s'était mariée avec la plus riche des héritières américaines, Anna Gould. Ça date de la fin du 19e. Et lui, il a beaucoup visité aux États-Unis. Il a vu sa famille. Ils ont vu comment ils vivaient aux États-Unis. Et lui, il a pu, grâce à ses millions, construire ce qu'il appelait le Palais Rose, qui n'existe plus, mais un vaste demeure où ils vivaient tous les deux avec beaucoup de meubles, des antiquités, etc. Et ça ne marchait pas, et puis finalement ils sont divorcés. Et le livre de ses souvenirs, qui est assez cocasse, parce qu'il raconte tout ce qu'il a vu, et il a un dédain pour le goût américain, mais qui est intégral. Il considère qu'il a été le victime des Yankees depuis pendant toute sa vie. Et il a surtout critiqué même ceux qui étaient les plus proches de lui socialement. Il critiquait le fait qu'au fond, il ne comprenait rien. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas le cœur de la civilisation française. Il ne comprenait pas la valeur des objets. Et donc, il considérait avec froid cette civilisation américaine qu'il considérait n'était pas assez civilisée. C'est un thème qui est récurrent quand il y a des critiques dans l'entre-deux-guerres. On considère que, après tout, ils sont un peu toujours pas assez dégrossis, les Américains. C'est un peu les termes qu'on utilise. Et même dans cette sphère de ceux qui étaient les plus proches, même des plus riches aussi français. Enfin, lui, il est devenu pauvre et à la suite de son divorce, il se lamente du début à la fin de son ouvrage, bien qu'il continue, il est obligé de travailler. Oh, c'est terrible pour un comte. Et il va devenir antiquaire. Et évidemment, parce que lui, il a un tel bon goût, et il reconnaît qu'il y a des Américains qui vont quand même être ses clients, puisque donc eux, au moins, ils ont le bon goût de reconnaître que lui, il a un bon goût, et ils vont lui acheter ses meubles. La question de la stigmatisation de l'autre, donc, peut prendre des formes différentes. Et c'est une question qui, pour moi, ce n'est pas une question... complètement résolu par rapport à tout ce travail. Mais je pense que quand on regarde c'est ça pour moi la question qui est soulevée par ce travail, c'est de poser ces questions sur, au fond, qu'est-ce qui fait que l'intégration réussit ou non? L'argent aide? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que le rejet de l'autre est, dans sa grande masse, un rejet aussi de classe? Et je pense que c'est ça ce qu'on voit surtout un peu à rebours d'un travail sur les élites. Mais je voudrais donc terminer par dire que pour moi, penser une migration des élites, pour le faire, il faut insérer cette histoire aussi dans le champ de l'histoire des migrations, tout en se plaçant en fait à ses marges, puisque quand on... Et je pense qu'on va continuer à penser l'histoire de l'immigration pas comme les hommes d'affaires, mais que ces marges des hommes d'affaires comme immigrés, je pose la question pour être là, cette provocation, ces marges interpellent le champ lui-même. Pratiquant une mobilité accrue, ces gens d'affaires, parce qu'ils continuent à voyager, ils l'ont fait déjà beaucoup, même dans les années 20, 30, même avant la Première Guerre mondiale. Ils représentent peut-être, quand les hommes d'affaires, les personnes riches qui voyagent beaucoup, représentent peut-être sur nos échelles de mobilité, ils représentent un extrême sur cette échelle des mouvements migratoires. Ils sont trop riches pour être définis comme immigrés, d'habitude. Ils se situeraient donc également aux marges économiques de notre champ d'études sur l'immigration, par rapport, en tous les cas, à nos définitions initiales. Donc, c'est toujours par rapport à ce que nous avions, mais pas seulement nous, mais aussi un sens commun, à comment ce sens a investi ces termes. Les migrations aisées seraient également en marge d'une définition culturaliste de l'immigré, parce qu'on pense qu'ils sont trop riches pour avoir des problèmes d'altérité. Mais ça aussi peut être problématique. Et tous ces critères, il me semble, nous renvoient aux délimitations implicites du champ des études migratoires comme nous les avons constituées, qui ont fait fleurir une littérature très riche de questionnements. Et il ne s'agit pas ici, je le répète, de vouloir remplacer un type d'études forcément par d'autres, ou de mettre en cause d'autres études, mais simplement de réfléchir sur la façon dont la construction d'organisations communautaires, les pratiques linguistiques, voire vestimentaires ou alimentaires, les gens aussi, ils aiment bien se regrouper, il y a des restaurants américains qui sont créés dès le début du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres surtout, donc tout cela qui crée un espace pour les autres à Paris, même les autres riches à Paris, il me semble, peut nous amener aussi à réfléchir sur ces questions et cette double question de la définition même de l'immigration, c'est-à-dire la mobilité elle-même et sont en miroir l'installation, mais aussi la différenciation sociale au sein des migrations et entre groupes migratoires. Donc, je vous remercie et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Merci,
Je te remercie. Y en a-t-il parmi vous qui ont envie d'intervenir pour lancer la discussion?
Ah oui, j'ai une question quand même pour les géographes. Que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Pour moi aussi, c'est ce langage d'émigration et immigration. Si vous regardez les bases de données bibliothécaires mettent les deux catégories ensemble, et comme c'est en ordre alphabétique, ils vont la catégorie de la Bibliothèque du Congrès et du coup de la Bibliothèque nationale est émigration et immigration. Pour moi, c'est un langage qui simplement désigne une direction. Les immigrants sont ceux qui partent et les immigrants sont les mêmes, mais quand ils arrivent. Donc, c'est une question de perspective d'espace. Mais pour moi, mais il y a d'autres qui vont dire, et au 19e siècle, on parlait beaucoup plus d'émigrants que d'immigrants. Et après, on est passé en français à immigrés et immigrants. Mais donc, c'est juste une des questions, mais que j'aimerais bien poser à ceux qui sont plus concernés par des questions d'espace. Pour moi, c'est une question de directionnalité. Je essaie de me tenir à ça, mais on a du mal, même dans nos écrits et dans ce qu'on lit, de voir s'il y a une distinction qui est utilisée. Voilà.
Je vois des géographes, donc.
Manuel. Emmanuel, en fait, je ne voulais pas
t'obliger. Alors, sur cette question, je peux, c'est pas facile de répondre d'une façon générale. Mais ce que je peux dire, c'est la façon dont moi-même je le conçois, et il me semble que c'était relativement partagé. C'est que, évidemment, l'immigré, c'est une même personne, mais que tout dépend moins de la direction que de l'endroit d'où l'on parle. C'est-à-dire, si on parle du pays de départ, on parle d'émigrés, et si on parle du pays d'arrivée, on parle d'immigrés.
Oui, voilà, c'est tout.
Donc ça, c'est... Mais ça me conduit à une petite remarque en passant, c'est que, effectivement, on utilise, on voit maintenant de plus en plus en français, je veux dire, le terme immigrant à la place d'immigré. Mais il y a aussi un autre terme qu'on utilise de plus en plus fréquemment, c'est celui de migrant.
Oui.
Alors, je sais que au sein même ici même, quoi, je veux dire à Poitiers, à Migrantair, il y a eu un débat là-dessus, et que il y a déjà quelques années, et que c'était le moyen de ne pas parler d'émigrés ou d'immigrés. Ça, c'était clair que la façon de ne pas en parler, c'était d'utiliser le terme migrant. Mais comme tu le disais tout à l'heure, le migrant, à propos d'immigrants. C'est le terme migrant, ça désigne un processus, et ça veut dire que le mouvement n'est pas terminé.
Oui.
Donc, parler de migrants pour des populations qui sont déjà établies ou des personnes qui sont établies depuis longtemps, ça pose aussi un problème.
Oui.
Donc, voilà.
Oui.
Sur ces histoires de classe sociale, est-ce que vraiment c'est si opérant que ça pour toi, pour définir cette catégorie d'élite? Parce que pour le coup, la mobilité, elle concerne tout le monde, les riches comme les pauvres, dans des conditions différentes, on est bien d'accord, dans des pratiques culturelles différentes, etc., même au 19e siècle ou au 20e. Mais est-ce que vraiment l'approche en termes de classe sociale permet une si grande stigmatisation de l'autre quand il est riche? Est-ce que vraiment
ça englobe? Je pense qu'effectivement, les riches ont une moindre stigmatisation puisqu'ils sont riches, mais ils peuvent en avoir. C'est ça ce que je veux dire. Par rapport à la mobilité, quand même, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler sur, sur ces gens. Et puis, bon, d'une part, le terme immigrant ou immigré n'est pas utilisé par rapport à eux. Ils ne se reconnaissent pas non plus dans ce, terme, ce type de terminologie. Ça, c'est clair. Mais je pense pour des raisons tout simplement que les mots eux-mêmes véhiculent des implicites de classe sociale. Mais l'autre objection, souvent, c'était « Oh oui, mais ils ne restent pas ». Et c'est vrai que la forme même de, des expats envoyés par des entreprises pour un nombre d'années défini à la fin du XXe siècle est différente de ceux qui, en fait, avant la Deuxième Guerre mondiale, venaient... C'était pas clair s'ils restaient ou non, mais ils venaient pour un... et ils s'installaient. Parfois, ils se mariaient avec des Français, mais parfois pas. Parfois, c'était des couples américains et qui restaient, qui pouvaient rester tout l'entre-deux-guerres. Donc, il y avait une installation plus grande qu'on ne le croit. Mais le... même si cette installation ne durait que 10 ans, 20 ans, et ils revenaient chez eux, j'ai fini aussi, encore une fois, par me dire, mais qu'en est-il d'autres immigrés ? Puisqu'on sait bien que, en fait, on a eu une interprétation qui est linéaire, comme je l'ai appelé parfois, qui implique une installation à terme, bien qu'on a toujours parlé du mythe de retour, mais justement, on a toujours parlé mythe de retour avec l'idée qu'en fait, les gens, c'est un mythe et que les gens ne retournent pas forcément. Donc, la question de l'installation, même si on considère que ce groupe est plus mobile que d'autres migrants, immigrants, émigrants, ça m'a fait réfléchir sur comment nous avons... c'est ça pour moi aussi l'avantage un peu heuristique de ce travail, que ça me force aussi à re-réfléchir sur la mobilité des autres. Parce qu'on le sait, mais on n'a pas beaucoup travaillé sur les retours ou sur des formes. Maintenant, on travaille plus sur les circulations. Mais et qu'il y a cet entre-deux qui font que finalement, ils ne sont peut-être pas si différents que les autres, que ce n'est pas, que ce n'est pas un critère de différenciation entre les migrations d'élite et les migrations de travail.
J'ai une question. Vous avez parlé des Américains à Paris, titre d'un film célèbre. Vous n'avez pas parlé de la province. Est-ce qu'ils se sont installés en province, et une province en particulier, et pourquoi ?
Je n'ai pas les chiffres en tête. Quand on voit leurs adresses, ils sont dans le Midi. Ils sont dans le Midi. Ils sont partout aussi. Il y en a dans les colonies françaises, donc ils sont recensés. Il y en a un certain nombre à Monaco, ça compte pas comme une. Mais donc ils sont pour ce qui est une source fabuleuse, c'est que dans l'entre-deux-guerres, en fait, la Chambre de commerce américaine, autre grande institution qui a vraiment structuré la communauté et qui représentait la voie marchande et industrielle des affaires, a imprimé tous les ans, depuis 1925 jusqu'à la guerre, un répertoire des Américains en France et en France. Donc, ils ont pu avoir, ils ont distribué des fiches, je ne sais pas exactement comment. Ça a eu un grand succès, c'était le best-seller de la Chambre de commerce américaine. Ça les aidait d'ailleurs à renflouer leur caisse, qui, par ailleurs, le nombre de membres montait et descendait selon les années. Mais c'est une source incroyable qu'on a rarement pour une communauté. D'abord, les livres qui sont gros comme ça structurent la communauté, montrent la communauté qui s'autodéfinit et qui s'identifie et qui donne leurs adresses, ils donnent leurs adresses de travail, ils donnent leurs adresses de résidence. Ils disent parfois dans quel club à quel club ils appartiennent. Il y a les informations sur leurs études, s'ils ont fait des études à Harvard ou ailleurs, s'ils appartiennent au club des anciens de Harvard ou de Cornell à Paris. Il y avait aussi toute une série de clubs comme ça. Ils ont des informations sur le type de commerce ou le type d'entreprise. Et on peut donc voir par les adresses où ils habitent. Ils habitent ce n'est pas un scoop, dans le 16e et le 8e arrondissement, le 17e aussi, la partie près du 16e. Quelques-uns de ceux qui s'identifient, qui sont dans ces livres. Alors, on peut dire que ce n'est que des hommes d'affaires de la Chambre de commerce qui sont dans les livres. Mais en fait, non, parce que Edith Wharton, l'écrivaine qui était installée à Paris depuis avant la Première Guerre, elle, comme Gertrude Stein, sont dans le livre. Alors, c'est-à-dire qu'ils s'identifiaient avec les Américains à Paris, ils s'identifiaient, ils voulaient qu'on les trouve, et donc, elles donnaient leurs adresses. Donc, c'est une source absolument que j'ai beaucoup travaillée, qui était fabuleuse, et qui, pour tous les groupes, on aimerait bien qu'on trouve des registres comme ça. En plus, à travers le temps, j'ai justement essayé de voir combien de temps les gens restent, combien de temps ils apparaissent dans le livre. Alors parfois, manifestement, ils oublient d'envoyer leurs fiches ou ils ne le font pas parce que l'éditeur, au début de chaque volume, il tanne la communauté en disant « mais envoyez-nous vos informations, on veut que ça soit mis à jour et un bon reflet de la communauté ». Mais c'est une source formidable qui crée autant qu'il reflète la constitution d'un sens d'une communauté à Paris, d'une colonie, comme il s'appelait. Et donc, il y a des adresses un peu partout, et j'avais fait un petit carte, une carte. Voilà.
Excusez-moi, j'ai une question. On entend souvent parler des migrants qui envoient de l'argent dans leur pays d'origine pour construire des églises. Là, vous avez parlé de l'inverse. Mais est-ce que ce mouvement financier existait aussi de la part de ces riches américains? Est-ce qu'il y avait un envoi d'argent au pays ou est-ce qu'au contraire, c'était juste dans l'autre sens uniquement?
Ah oui, c'est une bonne question pour voir justement cette... Et je ne sais pas. Et je ne sais pas comment je pourrais le savoir. Ceci dit, entre parenthèses, cette question des remises aujourd'hui, qui est très désignée aussi comme une nouveauté de notre époque, ne l'est pas non plus pour la plupart des immigrés qu'on peut étudier pour le 19e ou 20e siècle dans la masse des travailleurs qui ont toujours envoyé de l'argent ou à leur famille ou à leur communauté, pour peut-être plus individuellement que collectivement. Alors, est-ce qu'ils envoyaient de l'argent? Alors, ils avaient ceux qui, c'est clair, qui gagnaient leur argent à Paris, ils en avaient un surplus et ils ont pu aussi l'investir ailleurs. Mais je n'ai pas vraiment de source qui me permettrait de l'identifier plus. Ils ont fait des collectes pour toutes sortes de choses. Ils ont fait une collecte en 1910, la Chambre de commerce américaine fait une collecte en 1910 au moment de la montée des eaux, la crue à Paris, en disant que quand Paris est atteint, eux ils sont atteints, c'est leur deuxième pays, ils sont très affectés. Mais ils ont aussi, pour répondre à votre question, ils ont 3 ans auparavant, ils avaient aussi soulevé des fonds pour une crue dans le Ohio, par exemple. Alors, ils n'ont pas dit que le Ohio faisait battre le cœur comme Paris, mais ils pouvaient effectivement, et je n'avais pas vu dans cet esprit-là, mais c'est une très bonne question, ils pouvaient aussi avoir des moments ponctuels quand ils faisaient une collecte auprès d'une communauté qui était effectivement riche, bien qu'il y a aussi, et j'aurai un chapitre dans mon livre sur les Américains pauvres, parce qu'il y avait aussi des pauvres Américains, notamment ceux qui... il y avait beaucoup de soldats qui sont venus dans la Première Guerre mondiale, qui sont restés, qui ont essayé de trouver du travail et qui réussissaient plus ou moins. Et certaines finissaient vraiment dans une pauvreté où il fallait qu'ils demandent de l'aide pour retourner aux États-Unis. Mais pour les riches, il faudrait que je réfléchisse sur la question de voir s'il y avait d'autres exemples où on peut voir ce qu'ils ont fait pour les États-Unis. Mais sans doute, ils ne considéraient pas non plus le pays, ça serait logique, ils ne considéraient pas leur pays d'origine comme ayant un besoin particulier de l'aide. Les réseaux des églises est un sujet en soi qui pourrait être étudié plus en détail, je ne l'ai pas fait. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a même on ne dit pas prêtres, mais les chapelains, non, ce n'est pas le mot non plus, les officiants de ces églises, les deux églises, l'un épiscopalienne et l'autre l'église anglicane, l'autre est plus protestante écuménique. Ils ont, pour certains, il y a déjà des missionnaires qui viennent des États-Unis au début pour créer certaines missions. En France, d'ailleurs, l'Église catholique s'inquiétait de le YMCA, comme une émanation protestante qui avait pour but, en fait, un peu de prosélytisme. Donc, il s'inquiétait, l'Église, même pendant la philanthropie de la Première Guerre mondiale, les inquiétait. Mais ce que je peux dire, c'est que ces liens entre les églises américaines aux États-Unis et les églises américaines construites en France mériteraient une étude plus approfondie. C'est un peu comme la question quand même de l'autre côté pour la Chambre de commerce américaine un peu des multinationales. Donc, quels sont les rapports? D'où vient l'impulsion? Est-ce que ça vient des États-Unis? Est-ce que c'est des constructions en France, des Américains? Dans quelle mesure ils sont liés et dans quelle mesure ils deviennent semi-indépendants aussi? Là, je peux juste peut-être ajouter quelque chose que je vois dans les sources et qui est assez intéressante, c'est que dans quelle mesure, et je le poserai d'une manière plus générale que juste les Américains en France, mais je les donnerai comme exemple. En 1939, il est clair que les Américains en France, et ce n'est pas le seul exemple, ils voudraient faire pression aux États-Unis pour entrer en guerre plus tôt que plus tard. Ils sont plus francophiles que les Américains en Amérique. Donc, je pense que les groupes de toutes sortes peuvent avoir cette fonction de... Ils vont prendre le côté de l'endroit où ils sont, même vis-à-vis et parfois à l'encontre du pays d'origine. Donc ça, c'est aussi des choses que je pense qu'on pourrait travailler, de voir non seulement ces entre-deux de l'identité individuelle, mais les moments quand... les groupes peuvent essayer de faire pression sur leur pays d'origine par rapport au rapport avec le pays dans lequel ils sont installés. Et c'est une autre forme de ces allées-venues qui sont intéressantes, mais de ces rapports avec le pays d'origine.
Justement, je me demandais s'ils avaient des rapports avec les politiques français. C'était relativement puissant, entre guillemets, certains Américains riches. Est-ce qu'ils peuvent... comme certains le font aux États-Unis, faire pression? Est-ce qu'il y a des lobbies, etc., par rapport à certaines décisions politiques?
Oui. Une des grandes institutions que je n'ai pas assez mentionnées, et pourtant ça fait une partie centrale de mes recherches, c'est la Chambre de commerce américaine. Et la Chambre de commerce américaine. Et qui, effectivement, ils essaient de faire du lobbying. Mais ils doivent faire du lobbying à la fois auprès des parlementaires français et des ministres de commerce, etc., mais aussi par rapport au gouvernement américain. D'une part, eux, ils ont créé une chambre de commerce en France avant qu'une chambre de commerce américaine existe aux États-Unis. Après, il y a eu une centrale, enfin une espèce de chambre de commerce américaine, émanation de l'État. Donc, c'était une construction en France pour défendre leurs affaires, pour les défendre surtout contre les impôts. Ça, c'était un thème classique et récurrent et très important, c'est-à-dire que surtout contre les tarifs douaniers, des impôts sur le revenu, les impôts sur ou différentes formes de taxes sur les biens qu'ils voulaient importer en France, mais aussi par rapport à la législation qui gouvernait leur possibilité de s'installer en France et qui devenait de plus en plus... plus en plus difficile dans l'entre-deux-guerres. Au fur et à mesure qu'eux, ils montent en puissance, le gouvernement français émet certains types de restrictions. Chaque fois qu'il y a une restriction, donc ils essaient de l'éviter, de le contourner. Et puis, ils trouvent un modus vivendi. Et puis, hop, il y a la prochaine étape. Et puis, ça continue comme ça. Alors, cette Chambre de commerce américaine est un lobby de fait. Et ils ont une représentation. Ils connaissent aussi ce milieu. Ce n'est pas seulement les aristocrates et les riches héritières qui se connaissaient, mais il y a ce monde d'affaires. Et puis le monde d'affaires avec tout ce qui concerne les politiques, puisqu'ils savent qu'ils doivent agir là-dessus pour essayer de les convaincre que... Et alors là, l'argument répété est le libre commerce. Il ne faut pas mettre des freins sur le libre entreprise. Et donc, tout ce qui concerne taxes, impôts, tarifs douaniers est un empêchement qui va non seulement, ils disent... même avoir un effet néfaste sur la France, mais il porte la menace parfois en disant, mais après tout, les Français qui sont installés aux États-Unis, qui font des affaires aux États-Unis, doivent aussi, ils ont une plus grande liberté, mais attention, si nous n'avons pas la réciprocité ici, ça peut aussi poser des questions. Donc c'est un peu parfois les menaces de représailles, mais qui en général sont plus de l'ordre des vraies négociations entre les deux pays. Merci. Oui.
Oui, c'est...
Mais qui sont en concurrence aussi.
Oui, c'est tout à fait passionnant, là, cette thématique-là, de la manière dont tu la présentes. Alors, c'est beaucoup plus complexe, évidemment, que ça en a l'air.
Toi, tu connais bien.
Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Alors, bon, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, mais deux, trois petites choses. Bon, la première, c'est quand même de faire référence à la littérature, et notamment à Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, etc., dont on voit bien ces grandes fêtes sur la Côte d'Azur. Enfin bon. Et puis, évidemment, quelqu'un comme Hemingway, Miller, qui vit avec Anaïs Nin, etc. Enfin, toute cette littérature qui est extrêmement sérieuse, finalement, parce qu'elle montre un style de vie, une manière d'être, les lieux qu'il fréquente à Paris, les liens avec la diplomatie, avec les grands entrepreneurs, bon, etc. Bon, tout ça, ça me semble tout à fait passionnant. Seconde remarque, tu dis que ça permet bon, peut-être de remettre sur le chantier ce qui nous avait semblé dans les recherches qu'on a menées depuis de nombreuses années relativement résolu, c'est-à-dire le problème de classe, enfin l'appartenance de classe, la question des origines. Moi, je rajouterais à ça que c'est pas complètement vrai, puisque je pense qu'il faut le remettre là en question, et je rajouterais à ça quand même quelque chose qui me semble quand même très important, mais bon, t'as peut-être pas le temps de tout dire, c'est qu'on est dans une période du, je vais dire les choses en termes marxistes, comme tu l'as dit, hein, par rapport de classe sociale, de développement du capitalisme. Et que les États-Unis occupent là une place centrale de ce point de vue-là. Donc la dimension économique me semble fondamentale. La constitution, la création des multinationales, Deuxième Guerre mondiale, c'est pas simplement ça. C'est une deuxième remarque. Une troisième remarque, c'est que tu disais de manière drôle, on pense qu'ils sont trop riches pour avoir des problèmes d'altérité. Alors... De quelle altérité on parle, qui pense cette altérité, hein, et puis surtout, c'est. Alors, bon, on ne va pas jouer sur les mots émigrés, bien sûr qu'il faut les clarifier. Migrants, comment les nomme-t-on, etc., puisqu'ils ne sont pas des travailleurs immigrés. C'est-à-dire, somme toute, qu'ils n'appartiennent pas à une minorité. Ils sont du côté des majoritaires. Alors, c'est quand même une autre approche de la question de l'identité, hein. Voilà, donc c'était à peu près ce que je voulais, deux, trois remarques qui demanderaient évidemment bien plus de commentaires, mais une question, et je suppose que ton travail porte là-dessus, les juifs américains, ce qui est quand même pas négligeable justement dans ce capitalisme, et tu as fait tout à l'heure mention à Gould, pas juif, mais Rubinstein, enfin, etc., etc. Bon, tu parlais des Stein, Gertrude et la famille Stein, notamment comme collectionneur, etc., dans le monde artistique. Mais cette place qu'ils occupent, justement, dans le monde économique et dans l'expansion du monde économique américain dans les pays européens. Voilà.
Bah, tu peux imaginer que ça m'intéressait, ayant déjà travaillé sur l'histoire des Juifs en France, plutôt des pauvres. Pour moi, tous les Juifs ne sont pas riches et tous les Américains non plus. Et j'ai trouvé très peu de références. Il y a peu de Juifs dans mon échantillon. Je suis désolée de te dire, de te décevoir. Et je les aurais trouvés avec intérêt. Il n'y a jamais eu de synagogue, d'ailleurs, créée voilà, dans la période, ce qui est un signe. Mais aussi, les quelques exemples que j'ai trouvés, j'ai trouvé le... Vous connaissez la comédie musicale Fanny, non? Fanny Bryce. Alors, il se trouve qu'elle est venue en Europe et que le département d'État américain l'a suivie à la trace parce qu'elle pensait qu'elle allait vendre illégalement des fausses obligations que sont parce que le type, son amant dans le film, dans la comédie musicale et dans l'histoire, était un type qui est une espèce de gangster et juif, et que lui il soupçonnait qu'elle allait revendre des obligations qu'il a volées en Europe, et donc ils l'ont suivi quand elle est venue en visite et ils n'ont rien trouvé. Donc c'était une... J'ai pas trouvé grand chose. Pareil, les noms les noms, c'est difficile, hein. Dans le nom des Américains, dans ces listes, des très longues listes de ce directory de la chambre de commerce, la chambre de commerce américaine, il n'y a pas de noms juifs criants. Enfin, il y a comme dans tout échantillon quelques-uns qui sont, on ne peut pas savoir pour les noms, mais il y a aussi, par exemple, La Fleur, Le Fèvre, etc. Il y a des Français installés aux États-Unis qui sont peut-être plus importants par rapport à un groupe ethnique qui vient en France, ceux qui sont peut-être aux États-Unis depuis 50, 60, 2 ou 3 générations. Donc, les collectionneurs d'art, oui, il y avait les Steins et les Cohen Sisters. Je viens de voir aux États-Unis une très belle collection aussi d'une autre paire de sœurs que je ne connaissais pas, qui ont fait beaucoup d'achats d'artistes au début du siècle. Ils étaient là parmi d'autres et sans une identité particulière à ce que j'ai pu trouver. Et franchement, si j'en avais trouvé, ça m'aurait intéressé. Voilà. Alors, pour les artistes, les écrivains et toute leur description de ce milieu UP, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est quelques-uns, quand c'était des gens, d'abord, d'où venait leur argent ? Parce que ces écrivains, c'était en général les gens qui avaient des moyens. Certains étaient pauvres et travaillaient dans les journaux, comme Hemingway ou Miller, surtout. Mais c'était des gens qui avaient des moyens, c'était des rentiers. Pour une partie. Certains des écrivains à Paris, en fait, c'était des gens qui même écrivaient à la... On est payé par ligne. Donc certains n'étaient pas riches. Mais ceux qui sont devenus célèbres ensuite par leur écriture et qui ont... ce qui m'intéresse, effectivement... d'une part, il y a eu tellement écrit sur les écrivains que je les utilise plus comme une espèce de miroir en disant ils y étaient, et il y a un certain nombre des sujets qui m'intéressent, on les retrouve. Mais je dis, il y en avait tellement d'autres dont on ne parle pas que, en fait, sur lesquels on n'a pas écrit, que je privilégie les autres. Mais en utilisant, en fait, j'ai une partie où je vais justement déployer l'usage du terme travail pour parler de qui était, quel type de travail faisaient les Américains à Paris. Alors, c'était des industriels, c'était des juristes, c'était aussi des écrivains, et beaucoup d'écrivains, pas seulement les plus célèbres, mais beaucoup qui écrivaient pour un nombre incroyable de journaux américains, envoyaient des correspondants à Paris. Donc, de toutes parts des États-Unis, de Brooklyn à la côte ouest, des revues, des journaux relativement petits, qui voulaient avoir quelqu'un qui leur racontait la vie à Paris. Donc, il y avait beaucoup de travail de l'écriture, et d'ailleurs j'ai une partie quand même, quelques pages sur le travail de Sylvia Beach et sa librairie Shakespeare et compagnie, parce que ça m'intéressait en tant que femme d'affaires, comment elle a pu faire, et elle avait du mal. Joyce, qu'elle a édité, l'a complètement roulée dans la farine, et elle est trop généreuse.
C'était pour la bonne cause.
Certes, et c'est ça ce qu'elle pensait. Mais elle est trop généreuse pour critiquer. Elle dit, bon, c'était le plaisir, était le mien. Mais enfin, elle avait beaucoup de problèmes d'argent parce que lui, il empruntait d'elle tout le temps. Il voulait qu'elle le vend pas cher. Les droits américains, on les a complètement échappés, puisque c'était d'abord interdit aux États-Unis. Et quand ils ont fait des copies pirates, alors ils n'ont pas eu un sou. Donc, ce qui m'intéressait aussi, il y a par exemple une cabaretière africaine-américaine, Bricked Up, qui y a une petite, on a une petite scène dans le Midnight, minuit à Paris de Woody Allen, où on voit, ils sont chez Bricked Up, et elle, c'était une femme d'affaires, elle a monté son cabaret, enfin, elle était venue comme chanteuse, puis après, elle est devenue propriétaire du cabaret. Donc c'est intéressant de voir comment les gens, alors là c'était des travailleurs, travailleuses un peu exceptionnels, mais il y avait beaucoup de juristes, et les juristes, c'est un peu par le biais des juristes que j'ai commencé cette recherche, juristes, hommes d'affaires et une autre catégorie de travailleurs américains qui vous êtes, qui, non, il y avait des musiciens de jazz, c'était un travail, ils sont venus pour travailler, il y avait plus de travail en France pour certains qu'aux États-Unis, où le marché à Harlem était déjà plein, donc c'était on savait qu'on pouvait trouver du travail assez facilement à Paris. Il y avait aussi une catégorie de professionnels américains à Paris qui étaient connus comme une catégorie, c'était des dentistes américaines et américains. Le plus célèbre était le dentiste, l'empereur Napoléon III. Mais après, il y a eu toute une série. Il y avait un club des dentistes américains à Paris où ils se sont mis ensemble pour vouloir propager la bonne hygiène voilà. Et donc, il y a beaucoup de clubs professionnels, il y a des regroupements de toutes sortes, mais certains étaient dans un but de métier, en fait, les automobilistes. Voilà.
Il n'y a pas que les Américains qui sont riches, les États-Unis sont riches à cette époque-là.
Bonsoir.
Bonsoir.
Wow. Je comprends votre argument sur le fait que le rejet de l'immigré serait en fait dû en racisme de classe, etc. Donc, d'accord. Mais justement, est-ce qu'il y a des études qui ont été menées, enfin j'imagine, mais est-ce que vous pouvez nous en parler, des études qui ont été menées auprès des élites africaines ou asiatiques, mais surtout africaines, c'est le principal, concerné par les clichés de postcoloniaux, etc. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il en est au niveau de ces élites-là et de leurs problèmes avec l'altérité, d'altérité
Et ça, de manière générale, il n'y a pas assez de travaux sur l'immigration, l'immigration historique et contemporaine des Africains et des Asiatiques, aujourd'hui en France. Mais il y a, et sur les élites, je pense que c'est important. Il y avait un travail par un autre, enfin quelqu'un qui a, où j'ai un peu aussi co-dirigé la thèse de Abby Tassé, sur les Éthiopiens. En France et aux États-Unis. C'était une histoire comparée. Et l'intérêt de son travail, c'était de montrer, enfin, entre autres, les vagues migratoires changeantes. Puisque, en fait, il y avait une première vague d'immigrés éthiopiens qui étaient, en fait, les étudiants ou les enfants de diplomates qui étaient envoyés à l'étranger pour étudier. Et il parle de la dernière partie du XXe siècle. Et dont certains ensuite étaient coincés à l'étranger à cause de la Révolution. Donc il y a des moments où on a, il y a des travaux sur les personnes de l'immigration comme Ho Chi Minh à Paris. Donc parfois on a des figures d'une élite où on connaît un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il faudrait faire plus de travail dans ce sens. Et d'autres groupes que pour la période qui m'intéresse, les autres élites qui sont plus en vue sont des Britanniques, les Russes et les Latino-Américains, les Brésiliens notamment, donc où il y a une littérature aussi et des spectacles de Offenbach sur l'image de la riche. Oui, voilà. Donc effectivement, il y a il y a un travail comparatif à faire et ça serait intéressant de le faire plus en profondeur.
Oui, en t'écoutant et puis dans les réponses aussi, je me demandais quels étaient, si d'abord s'il y a eu des effets de la vague de xénophobie qui commence à apparaître au début des années 30, etc. Et puis aussi de toute une série de lois, de réglementations qui interdisent l'accès, notamment dans les professions libérales, avocats, etc., qui interdisent l'accès à ces professions par les étrangers. Est-ce que ça a pu jouer pour les Américains qui étaient installés?
Oui, tout à fait. Il y a deux moments particuliers. Il y a, en ordre chronologique et le plus spectaculaire, en 1926, il y a une espèce d'émeute contre les Américains à Paris. J'exagère un peu, mais c'était pas tellement sur les résidents, mais que contre les touristes. Le taux de change était devenu, avec tous les problèmes dans l'entre-deux-guerres, énorme, ce qui faisait que les Américains qui venaient et circulaient dans les cars de touristes quasiment jetaient les francs par la fenêtre et trouvaient que c'était une monnaie de singe, en fait, de la façon qu'ils le décrivaient et l'utilisaient. Et il y a eu, pendant 2-3 jours, des cars de touristes qui étaient attaqués à Montmartre. Et alors, on essayait de calmer le jeu. Et même l'Humanité a publié un article en disant, après tout, c'est juste des classes moyennes, les pauvres qui sont venus en vacances. Il faut pas les stigmatiser, eux. Mais c'était au milieu d'un moment où l'énervement français contre l'Amérique, et en particulier, il y a le problème de la dette qui est récurrent dans l'entre-deux-guerres, la dette due par la France aux États-Unis à la suite de la Première Guerre mondiale, qui est un objet de dispute énorme, avec des hauts et des bas de négociations, d'acceptations, puis de renégociations, etc., qui fait qu'entre ce discours sur la dette et comment les Américains insistent sur un remboursement que les Français pensent les Allemands devraient payer, est exaspéré par la présence d'Américains qui semblent ne pas comprendre ce que la France a souffert, etc. Donc là, il y a un moment important. Ça, c'est en 26. Et donc, en 27, arrive le livre de Duhamel. Il y a toute une série d'ouvrages qui aussi sont dans cette période de cette littérature anti-américaine. Mais au point de vue de pratique pour les hommes d'affaires, ils sont effectivement bien embêtés par les lois successives dans les années 30 qui restreignent. Pour eux, c'était pas seulement des professionnels, parce que je vois pas de... Ils ne sont pas avocats, donc ils ne sont pas concernés. Ils ne peuvent pas être avocats de toute façon. Et ils peuvent pas. Et la médecine, il y a des dentistes, mais de plus en plus, les membres du club des dentistes sont de toute façon déjà des Français pour différentes raisons. Mais la carte commerçant qu'ils doivent demander à la fin des années 30 devient un objet qui est... Une des dernières formes de restriction des métiers pour les étrangers, après avoir fait des quotas dans les usines, ensuite auprès de l'artisanat, finalement, le gouvernement français va aussi essayer de restreindre les commerçants en imposant une carte d'identité commerçante. Et ça les embête bien, et que les juristes et les dossiers des juristes que j'ai consultés doivent passer beaucoup de temps à essayer de voir comment ils peuvent le faire, parce que ça les empêche, s'ils ne l'ont pas, d'enregistrer une succursale auprès du registre de commerce. Donc ça, c'est une forme réelle d'une espèce de xénophobie de l'État à ce moment-là, dans la période où là, la xénophobie générale est à son acmé.
À propos de Duhamel, si je ne me trompe pas, ou est-ce un homonyme? C'est bien le créateur quand même de la série noire chez Gallimard. C'est lui qui a rapporté tous les auteurs policiers.
Il y a Duhamel. Pas mal de Duhamel. Mais...
Oui, si. Le créateur de la série noire. Enfin, il faudra vérifier, vous regarderez. Elle s'appelle Duhamel et c'est lui qui... Oui. Non, mais c'est celui qui a rapporté, qui a créé la série noire chez Gallimard et qui a rapporté tous les écrivains noirs américains. Donc Dashiell Hammett, Goodis, vous êtes d'accord, Raymond Chandler.
Ça ne serait pas illogique.
Oui, c'est le même
si
Duhamel.
Le même.
Donc il dit, donc il a deux visions des États-Unis, parce que j'aime bien Duhamel et la série noire. C'est lui.
C'est lui qui a créé la série noire, et notamment sous sa forme blanc et jaune.
Voilà, exactement. Donc voilà.
Je ne pense pas que c'est le même.
Si c'est le même.
Mais
si c'est le même. Ah ouais.
Donc c'est pour ça que ça me titille un peu depuis le début, mais enfin bon, les écrivains français ont aussi des contradictions.
J'ajoute, c'est pas une contradiction du tout, parce qu'une des choses qui effraie et dans l'anti-américanisme, c'est aussi les phrases racistes que les gens les racontent quand ils voyagent là-bas. Donc il y a parfois des gens vont raconter, ça c'est dans les années 20, c'était pas forcément dans le sud, il a dit, quelqu'un dit, oui mais j'ai renversé un nègre dans la rue par sa voiture, elle a dit... Bon, mais c'était pas grave. Après, la police est venue, etc. Donc, il raconte un racisme qu'ils ont entendu. Donc, ça peut être logique, mais il faudrait vérifier.
Je regarderai.
Il est sorti.
Je regarderai le bouzou, je te dirai. Merci.
Je vous rappelle aux étudiants qu'à côté, apparemment, il y a une exposition d'art.